Donc là, on est sur une base qui est en réparation. Donc il y avait une grosse fracture dans le dos, donc le fond de l'instrument. Et là, on ajuste l'âme, donc qui est un rondin de bois en fait, qui est en tension dans l'instrument en fait, entre la table et le fond. Et la place à laquelle elle est située dans l'instrument va déterminer en fait le son de l'instrument. Plus ou moins timbré, plus ou moins chaud, plus ou moins raide, etc. En fait, selon que ça va être passé à l'instrument, on va vraiment donner la nature du son à l'instrument. Entre l'hiver et l'été, en fait, il y a des gros changements de son, surtout sur les contrebasses, où avec les variations d'humidité, en fait, l'instrument gonfle ou se rétracte beaucoup. En été, on est à peu près à 70% d'humidité, en hiver, on est à 20-25%. Fait que c'est sûr que l'instrument bouge beaucoup à ces moments-là. Peut occasionner des réglages, donc de bouger un petit peu l'âme, donc changer sa tension et changer sa place pour vraiment essayer d'aller chercher un son maximum à n'importe quelle saison de l'année. Donc c'est pas mal ça qu'on est en train de faire là. Alors l'âme, c'est généralement en épinette, donc un peu comme du sapin de Noël en fait, qui est un bois qui a la propriété de transmettre très rapidement le son en fait dans l'instrument. C'est un très bon transmetteur de son. Donc c'est aussi le bois qu'on utilise pour faire le dessus des instruments, donc les tables. Donc là, on commence toujours à la mettre, on va dire, à une place théorique. Donc une place, on va dire, on fait une moyenne en fait au niveau du placement. Et puis après, compte tenu du résultat qu'on va avoir monté au niveau du son, au niveau de ce qu'on entend, on va pouvoir commencer à déplacer, à la déplacer un petit peu. Ou à bouger un peu le chevalet, et puis compte tenu de la place qu'on va réussir à trouver, on va faire une moyenne en fait pour trouver une place optimale. Donc déjà pour nous à l'écoute, et puis après pour le musicien, pour son confort, et puis ce qu'il s'attend à avoir comme son. Parce que c'est pas parce qu'un instrument va être bien réglé pour moi, qu'il va être bien réglé pour le client. C'est selon ce que lui il a envie d'entendre. On peut être amené à retendre un peu l'âme justement, ou à la détendre, ou changer un petit peu de place le chevalet, pour avoir... un son qui va être un peu plus serré ou un petit peu plus rond, un peu plus chaud, ça dépend vraiment de... Puis chaque musicien met aussi ses mots à lui pour décrire le son dont il a envie. Tiens. On a l'atelier du Trait Montréal, qui est un atelier qui est ouvert il y a un an. On est spécialisé dans la restauration des instruments à cordes frottées, donc le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Moi, je fais principalement de la restauration avec un autre collègue luthier. Et à côté, on a Emmanuel, qui est archetier et qui, lui, fait principalement du neuf, donc des archets à conception. Puis, voilà. C'est une basse qui est vraiment, d'un point de vue du prix, qui vaut pas grand chose, mais d'un point de vue sonore, elle est vraiment pas mal, et puis son propriétaire y tient beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'on lui refait en fait. Fait que c'est ça, des fois on a des instruments de faible valeur commerciale, mais on peut tomber sur un super coup de bol. fait que sur une grosse série, en fait, on peut tomber sur l'instrument de cette série-là qui va bien fonctionner, en fait. Quand t'es luthier ou archetier, t'es juste le maillon d'une chaîne. La finalité de la chose, c'est que quelqu'un joue et puis se serve de l'instrument pour créer de la musique. Et puis qu'il en soit heureux, c'est que ce soit son instrument, et puis que quand il le joue, soit vraiment une partie de sa personnalité aussi qui ressorte, et puis que bah, il arrive à faire à son instrument ce que lui, il a envie. T'es un peu le médecin de l'instrument, quoi. Tu veilles on va dire, au bon vieillissement de l'instrument, quoi. Parce que tu as des instruments bien entretenus, là, des instruments qui ont 250, 300 ans, qui continuent à fonctionner à merveille. Juste qui demandent un peu plus d'entretien, bah, comme une personne un peu âgée, là, qui a besoin justement d'aller voir son médecin un peu plus souvent. Mais un instrument bien entretenu, oui, ça peut résister, pas de vitam aeternam, mais ça peut résister bien longtemps. Entre travailler sur un instrument qui a été fait il y a 10-15 ans, à la chaîne, dans une usine, dans quelques pays que ce soit, et puis un violon qui a été fait par un luthier il y a 150, 200 ans, faut aussi garder ça à l'esprit, quoi. Donc c'est pas exactement la même conception de travail à ce moment-là. Il faut apporter le même soin, que ce soit un instrument pour les étudiants, pour les professionnels. Mais c'est sûr que la réflexion au niveau d'un travail de restauration va pas être non plus la même. Puis on fait pas non plus les mêmes restaurations sur un instrument à 500 $ ou à 30 000 ou à... J'ai commencé par le violon et puis un jour j'ai cassé mon violon. Puis, mon père m'a emmené chez le luthier. Puis, bah, en plus c'était une réparation pas belle, l'instrument était mal tombé. Donc c'était aussi un peu la punition, comme on va voir le médecin et puis regarde, tu vas comprendre ce qui se passe et puis surtout tu vas voir ce que ça coûte et puis ce que c'est comme travail. Puis bah, finalement je suis resté chez ce luthier-là pendant toute la journée au lieu de rester juste une demi-heure et puis bah, j'ai continué à aller le voir petit à petit, c'est ça qui m'a donné aussi envie de me mettre à ça. Il y avait quelques écoles, donc il y en a qui sont très connues, bah, il y a l'école à Crémone donc en Italie, il y a une école en France où j'ai fait mes études donc à Mirecourt en Lorraine à côté des Vosges. T'as une école à Mittenwald en Allemagne, t'as une école à Newark, à Londres, en Angleterre. Puis depuis, c'est ça, depuis quelques années, en fait, on se retrouve avec beaucoup plus d'écoles. Je sais qu'aux États-Unis, là, il y en a facilement 2-3. En Angleterre, il y en a plusieurs aussi. En Chine, il y en a beaucoup qui ont ouvert. Il y en a une en Belgique. Puis il y en a encore ailleurs. Il y en a au Mexique. Il y a vraiment beaucoup d'écoles de lutherie qui ont ouvert. C'est un métier qui se perd pas, même qui a tendance à se développer, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec les nouvelles technologies et tout ça. Mais non, ça continue à attirer du monde, et puis bah, tant mieux. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a vraiment des luthiers qui sont implantés au Québec pendant longtemps. En fait, il y avait des patenteux, quoi, des gens qui aimaient le violon et puis qui voulaient jouer du violon, mais il n'y avait pas forcément deux personnes capables de les restaurer ou de s'en occuper à l'époque. Donc, tu as beaucoup de violons qui ont été fabriqués par des particuliers et puis qui ont essayé des choses, soit avec un instrument qui leur a servi de modèle, soit vraiment. Juste avec des croquis, des dessins qu'on essayait de faire de quoi. On avait été voir avec Manu une dame qui avait hérité de son mari de plein, 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 plein d'instruments. Et puis c'est vrai que d'un point de vue lutherie, c'était pas très intéressant. Par contre, au niveau historique, ouais, il y avait des choses assez amusantes, quoi. Donc, ça, dans le lot, t'as des choses qui sonnent bien. Et puis il y a vraiment des choses. Fallait pouvoir jouer de la musique. Donc, on faisait avec ce qu'on avait sous la main. On essayait de gosser du bois comme on pouvait, et puis On se faisait un bignou, quoi. Donc là, c'est ça, je suis en train de remettre les cordes sur la petite contrebasse. Il y a des cas un peu spéciaux, mais dans 95% des cas, les éclises, donc les côtés de l'instrument, le fond, le manche, la tête, ça fait en érable. Le dessus de l'instrument, c'est généralement de l'épinette ou épicéa. Et puis la touche, c'est de l'ébène. Dans l'érable, par exemple, ou dans l'épinette, il y a beaucoup de variétés différentes. Puis ça va vraiment changer au niveau des qualités mécaniques et sonores du bois, en fait, selon où ça a poussé. Et pourquoi telle essence plutôt qu'une autre? Il y a des bois qui vont être un peu plus lourds, mais moins nerveux, des bois très mous, des bois qui transmettent le son très rapidement, des bois trop raides, des bois... Enfin voilà, c'est vraiment, avant de construire un instrument, faut vraiment déjà connaître un petit peu le bois pour choisir le bout de bois qui va correspondre à l'instrument, en fait, qu'on veut faire. Faut savoir qu'un bois, on ne coupe pas juste l'arbre et fait l'instrument avec. C'est une fois que les quartiers de bois, donc les parties qui vont servir à faire l'instrument, sont coupées. Il y a toujours une période de séchage de quelques années minimum pour que le bois soit bien sec, qu'il travaille moins, qu'il soit un peu nettoyé de toutes les impuretés qu'il y a dedans, etc. Pour que justement il soit plus homogène et puis plus intéressant à travailler, et puis surtout au niveau sonore. Ça va beaucoup changer. Un bois qui va avoir reçu un mauvais séchage ou un séchage trop rapide, c'est pas forcément des instruments qui vont bien sonner, c'est des instruments qui vont avoir tendance peut-être à travailler plus vite aussi au niveau de la conception, qui vont se détériorer plus vite aussi. Donc c'est ça. Il faut réussir à choisir le bon bout de bois qui va servir à faire son instrument. Tout a une incidence. Que ce soit les épaisseurs qu'on va faire dans l'instrument ou la tension de la barre d'harmonie. Donc la barre, c'est une espèce de barre de bois, en fait, qui est collée dans la table de l'instrument. Et selon sa grosseur, sa place, sa tension, ça va aussi déterminer une nervosité, une qualité de son, en fait, dans l'instrument. Donc selon certains angles, certaines tensions, certaines places d'éléments, on va pouvoir aller chercher des conceptions sonores différentes pour jouer justement plus de la musique folklorique ou du classique ou du tzigane. Chaque musicien a aussi ses goûts particuliers. Le même instrument ne va pas sonner forcément de la même manière dans les mains de deux musiciens différents, en fait. Donc dépendamment de ce qu'on fait de son instrument, et puis même sa morphologie ou sa manière de jouer ou sa sensibilité, on va avoir des sons vraiment différents sur le même instrument. Un violon, il faut imaginer ça un peu comme une membrane de haut-parleur, où ça vibre constamment. Le fait qu'on ait ce son-là sur un violon ou un violoncelle, une contrebasse, c'est que c'est une membrane vibrante. Et pour que ça sonne bien, en fait, ça a besoin de jouer. Donc quand on a fini un instrument, on va avoir un son, mais c'est sûr qu'au bout de 6 mois, 1 an, on va jouer sur cet instrument de manière quotidienne ou assez souvent. On va avoir un son qui se développe par rapport à ce qu'on va avoir fait, nous, avec l'instrument. Donc ça dépend, oui, de la nature du musicien, de ce qu'on veut en faire, et puis c'est ça. Les instruments vont pas se développer de la même manière dans les mains de deux musiciens différents.
Thank you. presque, mais la fois il sonnait plus fort, mais j'aime mieux qu'il sonne un peu moins fort quand on en a parlé.
Bah là en plus t'as fait des mélanges de cordes, tu sais.
Hein?
T'as fait des mélanges de cordes qu'il n'y avait pas l'autre jour.